Cette correspondance de Gelderode, elle couvre une période de 1919, très exactement, je crois, à 1962, année de la mort de l'auteur. C'est-à-dire que en 11 volumes, parce qu'un des volumes est dédoublé, c'est en fait 10 parties, mais en fait 11 tomes, plus un index qui reprend le tout, donc en fait 12 livres, qui comptent ensemble quelque chose comme 8000 ou 9000 pages, qui sont un parcours de la vie littéraire de Gelderode, puisque 1919, à l'époque, il a 23 ans, il entre en littérature et il a déjà des correspondants et on a retrouvé des lettres qu'il avait adressées à des gens à cette époque. Et d'ailleurs, quand on voit cette tranche d'histoire, 1920 à peu près, jusque 1960, on voit que Gelderode a accompagné, soit les derniers moments de certaines époques littéraires belges, ou le début d'autres qui viendront dans le troisième tiers du XXe siècle. Quand Gelderode débute, il est par exemple très proche de Georges Eckhout. Et Georges Eckhout était un des membres de la Jeune Belgique. Donc cette revue qui commence à paraître à la fin du XIXe siècle a encore un impact sur lui. Donc il est dans le prolongement, et ça se vérifie d'ailleurs aux yeux de tous les observateurs du répertoire théâtral belge. Il a quelque chose dans la filiation de Maeterlinck, même s'il est une sorte de contre-Maeterlinck, puisque Maeterlinck travaille dans l'économie, dans la retenue, et lui dans l'abondance et dans le baroque. Et puis de Crommelinck, et là il y a des rapports beaucoup plus étroits entre Crommelinck et Gelderode, et lui-même alors, d'une certaine façon, fût-ce de manière indirecte, ouvre la voie à un théâtre entre guillemets moderne, certains aspects par exemple du théâtre de l'absurde, point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais par exemple, Pascal Vrébos, dramaturge, a une dette à l'égard de Gelderode. Donc c'est le personnage lui-même est un personnage beaucoup plus multiple qu'on ne le pense au premier regard, et dont la présence dans la littérature a largement dépassé la discrétion dans le comportement, parce que Gelderode a vécu pratiquement toujours en ermite, pour des raisons d'ailleurs essentiellement de santé, et c'est la raison pour laquelle il a passé tant de temps à écrire des lettres. Il a écrit des lettres parce qu'il ne pouvait pas dormir, l'asthme l'empêchait de dormir le plus souvent, donc il passait la nuit à écrire des lettres, d'autant plus que son œuvre dramatique, il l'a composé toujours à un tempo extrêmement rapide. On en a des témoignages aussi, les lettres le reflètent à certains moments, qu'une pièce par exemple comme Escurial est une pièce qui a été écrite vraiment dans un élan, comme une vision. Bayenne a retrouvé aussi des documents où simplement sur un dos de carte postale, Il résumait toute une pièce, l'action, les personnages, la forme, la rhétorique, enfin, tout y était, et tout ça jaillissait à très vive allure. Et c'est, d'ailleurs, le théâtre de Gelderode est un théâtre visionnaire, on est d'accord là-dessus, et a été essentiellement produit, d'ailleurs, dans une période relativement courte, c'est-à-dire de la fin des années 20, pratiquement jusqu'à la guerre. Toutes les pièces qui ont été abondamment fêtées dans les années 50, les années qu'on a appelées les années de Gelderodite aiguë, avaient été écrites dans les années 30, que ce soit Barabbas, que ce soit Pantaglaise, que ce soit Escurial, Face d'enfer et tout ça. Donc il a eu beaucoup de temps en fait pour écrire des lettres, et d'ailleurs l'immense quantité de lettres rassemblées dans les volumes dirigés par Bayenne ne représente qu'une partie de la totalité, ce que Bayenne reconnaît. c'est qu'il n'a pas tout réédité, parce qu'il a quand même procédé un peu par filtre pour laisser des textes qui étaient intéressants, pertinents et qui pouvaient éclairer la connaissance de l'œuvre. Il y a beaucoup plus que ça, parce qu'il n'arrêtait pas. C'est-à-dire, il était la plume à la main quasiment 20 heures sur 24. Et écrivant cela, il s'inventait lui-même. Il mettait en scène son personnage, parce que c'était un théâtreux vraiment jusqu'à la moelle, et il a pris plaisir à concrétiser, à incarner une espèce de mage, une espèce d'initié un peu diabolique, enfin, qui impressionnait considérablement ses visiteurs. Il y a dans un très très bel essai de Jaco Di Berti sur Molière, un premier chapitre qui raconte une visite d'Uliberti chez Gelderode à Bruxelles, rue Lefranc à Skaarbeek, où il entre dans son cabinet de travail et il est reçu par la femme de Gelderode, par Jeanne, qui lui dit il va arriver. Et je suppose que Michel de Gelderode devait prendre un médicament ou peut-être une piqûre ou que sais-je. Enfin, il a tardé à entrer dans la pièce, et Uliberti raconte qu'il était très très impressionné, même oppressé par ce décor, parce que c'était un endroit hanté de marionnettes, de mannequins, de figurines étranges, etc., qu'il a dû fuir la pièce avant d'avoir vu Gelderode, tellement il était effrayé par la chose. Et ça, je peux en parler parce que j'ai moi-même très très bien connu ce cabinet particulier de Gelderode, pour la raison toute simple que j'ai appris l'existence de Gelderode le jour de sa mort, c'est-à-dire le 1er avril 1962, et par une rumeur dans le quartier. Brusquement, on citait le nom d'un personnage qui venait de mourir et qui était un écrivain. Et mes parents ne connaissaient pas Gelderode, par exemple. Mais très curieux, je me suis renseigné. Et de quel écrivain s'agit-il? Alors j'ai appris le nom de Gelderode, tout ça en quelques heures. Et puis on m'a dit, il habite rue Lefranc, et moi j'habitais rue de l'Est, qui était un peu la continuation de la rue de Franc, de l'autre côté de la chaussée de Hacq. Et je suis allé rue Lefranc, et j'ai avisé une personne qui était en train de sortir ses immondices, parce que la voirie allait passer, une dame d'un certain âge, et je lui ai dit, est-ce que vous savez où habitait Gelderode? Et la dame me dit, oui, je suis sa veuve, entrez. Et c'est comme ça que je suis devenu un habitué pendant quelques années du cabinet particulier de Gelderode. Ça a eu une influence sur le théâtre belge, dans la mesure où à l'Athénée où je terminais mes études, donc à l'Athénée de Fernand Blum, j'ai alors monté avec mon ami Albert-André Lheureux un spectacle qui terminait par la représentation d'une pièce de Gelderode qui était Le ménage de Caroline. Et Madame Gelderode est venue voir ce spectacle. Dans les accessoires du spectacle, il y avait une sorte de faux orgue de Barbarie qu'elle m'avait prêté. Et il y avait un jeune chercheur flamand qui lui aussi venait de débarquer dans l'appartement de la rue Lefranc, qui était un rez-de-chaussée en fait. Ils occupaient trois pièces dans cet immeuble, avec une grande porte cochère qui est connue maintenant par la photo, une des photos les plus connues de Gelderode qui referme sa porte derrière lui. Et ce jeune chercheur, enfin pour moi c'était quand même un aîné, il avait 5 ou 6 ans de plus, c'était Roland Beyenne. Jeune romaniste flamand, et qui lui aussi venait d'apprendre l'existence de Gelderode le jour de sa mort, et de ce fait-là avait ressenti une grande frustration, et s'était dit « bon, j'ai peut-être une matière là pour faire mes travaux », et il a entamé un doctorat, ça a été le point de départ de son travail scientifique, qui allait faire de lui un grand professeur de la KUL, formateur de quantité de romanistes flamands, mais qui allait être totalement voué sur le plan de sa recherche personnelle à Gelderode dans son ensemble. Il a fait des essais sur l'œuvre de Gelderode, il a étudié tous les aspects, aussi bien théâtraux que en prose, les fameux contes crépusculaires qui s'appellent Sortilèges, et puis le théâtre. Et alors, il est tombé, il a découvert ce phénomène épistolaire, parce que il n'y a pas beaucoup d'épistoliers aussi productifs dans la littérature, on pourrait dire mondiale, que Gelderode. Avec le fait que chez lui, la littérature épistolaire se traitait avec la même ambition et le même soin et la même créativité surtout que la littérature de théâtre ou de fiction. Alors, avec ce spectacle du Ménage de Caroline, s'est constitué un premier petit groupe qui allait fonder quelques mois plus tard le Théâtre de l'Esprit Frappeur. Alors, le Théâtre de l'Esprit Frappeur, au fond, est né de cela, et lui-même est devenu alors la première étape de ce qu'on a appelé le Jeune Théâtre à Bruxelles, et dans lequel nous programmions Obaldia, Arabal, Ionesco. Donc c'était le théâtre d'avant-garde ces années-là. On a monté la cantatrice Chauve en 63, c'est-à-dire moins de 10 ans après sa création à Paris. Et donc ça a été une formidable bascule, si on veut, que cette constatation de l'existence familière, qui aurait pu être d'ailleurs vérifiée du vivant même de l'auteur, d'un génie littéraire devenu un personnage simplement de la vie quotidienne, même si à ce moment-là, il n'était plus qu'un spectre. Mais je crois qu'il avait toujours espéré devenir un jour un spectre. Et puis alors, les rumeurs du quartier se multipliaient, beaucoup de gens disaient « Oh non, moi je l'ai bien connu », disait le boulanger, ou bien au coin de la chaussée de Acte. Et il y avait un café où je n'étais jamais entré, mais où on me disait « Mais enfin, Gelderode était ici pratiquement tous les jours ». Alors je trouvais ça encore plus insupportable, l'idée de cette proximité que c'était jamais, jamais réalisé. Donc, se retrouver dans cet espace régulièrement pour faire la causette avec Jeanne de Gelderode et puis beaucoup avec Roland et être amené quelquefois à témoigner, conforter, confirmer ou infirmer les réflexions de Jeanne de Gelderode sur la postérité de son mari. Je me souviens qu'un jour, elle nous a montré un manuscrit d'un ouvrage pornographique écrit par Gelderode en nous prenant à témoin et en disant « on ne peut quand même pas conserver ça ». Enfin, elle était prête à le mettre au feu et nous avons dû un peu insister, dans la mesure où on se permettait de se mêler de ça, en lui disant « Non, madame, on ne pense pas, je crois que ça fait partie de l'œuvre, etc. » Bon. C'était une période assez excitante, et c'est à ce moment-là que, quelques années plus tard, dans la revue Marginale, en 1967, pour les 5 ans de la mort de Gelderode, il a fallu se rattraper. Et on a fait ce dossier Gelderode, qui est maintenant devenu une curiosité bibliographique, où j'avais, avec un ami qui s'appelait Jean-Pierre Larbalet, sollicité une quantité de personnes, dont certaines qui avaient fréquenté Gelderode, d'autres qui étaient des admirateurs. Et puis alors des dramaturges postérieurs à Gelderode, je pense à Paul Willems par exemple, à qui on avait demandé un témoignage. Je me souviens d'avoir écrit à Roland Barthes, qui avait répondu que malheureusement il n'avait pas le temps. Enfin, c'était une carte très, très charmante. Et j'avais écrit aussi à Bernard Dort, le grand spécialiste de Brecht. Et je lui disais, il y a quand même une chose troublante, c'est qu'au fond, Brecht et Hegel de Rhodes sont parfaitement contemporains. Ils étaient nés à peu près les mêmes années, morts dans les mêmes années. Enfin, Hegel de Rhodes est mort 5 ou 6 ans après Brecht. Et ne mesurant pas tout à fait, pour ce qui me concernait, l'immense abîme idéologique qui séparait les deux, et nous avons publié dans ce numéro de Marginal un témoignage intéressant de Dort où il disait... Je n'ai pas le temps de creuser la question, mais il est évident qu'il y a dans l'œuvre de Hegel de Rhodes une dimension épique qui le rapproche de Brecht. Et c'est vrai que quand on voit comment est construite une pièce comme la Ballade du Grand Macabre, c'est quelque chose de brechtien là-dedans. Il y avait aussi un autre élément très, très intéressant, mais qui a été découvert plus tard, c'est que Brecht avait dans ses cartons un projet de pièce inspirée du roman de De Coster, Till Eulenspiegel. Or, Till Eulenspiegel, et en particulier la figure aussi de De Coster, fascinait complètement Hegel de Rhodes. Et une des raisons de cela, c'est qu'il était très sensible à une coïncidence, c'est que De Coster était mort dans la rue de l'Arbre Béni à Ixelles, rue où il était né lui-même 5 ans après, ou 10 ans après. Et donc, il se percevait lui-même comme un continuateur de De Coster. C'est un peu là aussi que Hegel de Rhodes nous amène aux sources de la littérature belge, parce que le tout premier chef-d'œuvre des lettres belges, c'est quand même la légende du Eulenspiegel de De Coster. Donc, si on inclut là-dedans les jeunes écrivains vaguement d'ailleurs, ou totalement potentiel, qui était Alain Berenbaum, qui était dans l'équipe du Ménage de Caroline, ou moi, il y a une espèce de grand écart qui se fait de Coster à aujourd'hui, grâce à la figure pivot de Hegel de Rhodes. Alors, si on s'attache plus particulièrement au volume qui vient de sortir, le tout dernier que Beyen nous donne, c'est sur une période courte de 1961 à 62, et c'est la fin de la vie de Michel de Hegel de Rhodes, où il est en fait dans une espèce de profond contraste entre le sentiment qu'il a qu'en Belgique il intéresse moins, il n'est plus la coqueluche de Paris qu'il a été dans les années 50, où des gens très divers l'ont monté. Il y a même une époque où on jouait 4 pièces de lui en même temps à Paris, où Gallimard republie son théâtre complet. Cet intérêt-là diminue. En Belgique, il est très mal à l'aise parce que, comme il était fortement paranoïaque, il croyait qu'il y avait un complot contre lui, qui notamment a fait qu'il n'a jamais été élu à l'Académie. Donc il avait des rapports très tendus avec des écrivains de sa génération, qu'il traitait souvent comme des traîtres à sa cause. Il ne comprenait pas leur attitude. Je crois qu'on peut creuser tout ça. Ça, c'est plutôt de la matière d'histoire littéraire. Mais en revanche, sa réputation croît sans cesse plus loin et sur d'autres continents. Et il est surtout, à ce moment-là, beaucoup étudié et traduit aux États-Unis. Et une grande part des correspondances ici sont échangées avec des chercheurs américains, des professeurs et des traducteurs, et en partie une sociologue qui devait à ce moment-là avoir une trentaine d'années, qui s'appelle René Fox, et qui allait écrire 40 ans plus tard un livre très important qui s'appelle « Le château des Belges », et pour qui Hegel de Rhodes a joué un rôle essentiel, parce que c'est à travers lui qu'elle a pris tout doucement, elle a assimilé tout doucement cette complexité culturelle belge, à laquelle elle tient énormément et qu'elle décrit de façon extrêmement compétente dans le château des Belges. Au fond, Gelderode est la dernière grande personnalité à avoir été un écrivain flamand d'expression française, qui d'ailleurs ne connaissait que le flamand populaire, qu'il n'a jamais écrit, qu'il intègre parfois par bribes et morceaux dans ses dialogues, mais qui est totalement imprégné de traditions flamandes, qui a énormément puisé ses sujets dans les légendes flamandes, que de Coster avait d'ailleurs traité avant lui, qui est évidemment complètement hanté par à la fois Bosch et Bruegel, dont on a l'impression que certaines pièces, ce qui est d'ailleurs avoué dans certains cas, comme quand il traite la parabole des aveugles ou d'autres sujets de cet ordre, certaines pièces sont des illustrations, des concrétisations, des dramatisations de situations bruegeliennes. Donc c'est un gigantesque maelstrom imaginatif dont il est à la fois l'héritier, le défenseur et le développeur, si on peut dire. Et là, je crois qu'il est normal que le meilleur relais qu'il puisse y avoir de tout ce monde par les méthodes de la recherche, de l'érudition et de la science littéraire était nécessairement Roland Beyen. Roland Beyen, fils de pêcheur de la mer du Nord, qui, à un moment donné, d'ailleurs, se destinait au séminaire, qui se trouve à l'UCL et qui, entre des études d'abord, je crois, de théologie et de littérature, choisit la littérature française et remarqué tout de suite par ce grand pédagogue de très haut vol qu'est Joseph Hans et qui devient le plus brillant disciple flamand de Joseph Hans et qui un jour va lui succéder d'ailleurs puisqu'il a encore enseigné évidemment à l'époque où les deux sections de romane à Liège, que ce soit la flamande et à Louvain, que ce soit la flamande ou la francophone, restaient regroupées. Donc c'est quelque chose de très très émouvant de voir qu'il a mené ça à bien, parce que Beyen, qui n'est pas toujours dans la force d'une pleine santé, a régulièrement, j'en ai été témoin, craint que son œuvre n'arrive jamais à son aboutissement. Il faut vraiment lui savoir gré de l'avoir fait. Deuxièmement, savoir gré à ceux qui lui ont permis de le faire, et ça paraît donc aux éditions des Archives et Musées de la Littérature, grâce à l'endurance aussi de Marc Washburn et de son équipe. Je pense qu'on a affaire à quelque chose d'improbable, parce que tout ça représente un déploiement d'efforts incommensurable d'un total idéalisme, d'un absolu bénévolat, et soutenu quand même par des moyens permis par les institutions culturelles qui ont au moins financé la fabrication des livres et tout le gigantesque effort de concrétisation que tout cela suppose. Donc c'est dans les archives du futur, AME l'édition, que l'on peut-être maintenant remonter le temps et reprendre le tout à zéro. Ce qui aide énormément, c'est l'index, parce que là, l'index est un instrument de travail évidemment indispensable. Et ce qu'il y a de plus remarquable dans le travail de Beyen, en dehors du fait que chaque lettre fait l'objet d'une analyse très poussée, c'est que quand il présente les correspondants de Gelderode, les destinataires de son courrier, il en fait parfois un portrait qui tient de la monographie. ce qu'il dit sur l'américain Draper, par exemple. Je vois ici un des vieux amis de Gelderod, auquel il a beaucoup écrit, qui s'appelait Moulard. Moulard fait l'objet d'une biographie de 4 pages. Y a certains des portraits que fait Beyen des interlocuteurs de Gelderod qui sont des études en soi. Donc on a affaire vraiment à quelque chose d'une inimaginable générosité. Alors signalons qu'en même temps, les éditions Racine sortent de Josiane Vandy un livre qui s'appelle « Jeanne et Michel de Gelderod ». Je n'en ai pas encore pris connaissance, mais il est bon de savoir qu'il y a aussi le portrait de ce couple très particulier que formait, comme le titre du livre de Josiane Vandy l'indique, « La guerrière et l'archange ».